En juillet dernier, Olivier Voynet, chercheur star de la biologie végétale et potentiel prix Nobel, était exclu du CNRS en raison de manipulations d'images et de manquements graves aux bonnes pratiques de publication. La sanction fut lourde et ces graves accusations ont été d'abord rapportées par le site PubPeer qui s'est spécialisé justement dans la dénonciation d'inconduites scientifiques. Les exemples de manipulation de données sont nombreux dans le domaine scientifique et Galilée lui-même aurait bidouillé des résultats expérimentaux à son avantage. Le dossier de la Tête au carré s'intéresse donc à la fraude scientifique et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, un rapport alarmant sur les antibiotiques.
Oui Mathieu, pour la première fois, une ONG américaine publie l'analyse détaillée de l'utilisation d'antibiotiques et de la résistance bactérienne à l'échelle mondiale. Et les résultats sont tout sauf rassurants, donc on en parle dans un instant avec nos invités et vos questions sur les réseaux.
Stéphanie Texier réalise cette Tête au carré qui a été préparée par François Mercier avec Margot Dullard.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fraude scientifique, dossier donc de l'émission dans quelques instants. Mes invités pour en parler, la physicienne Michèle Leduc, le mathématicien Jean-Gabriel Ganassia et le biologiste Boris Barbour. Bonjour à tous les trois et bienvenue.
Mathieu. Bonjour.
Michèle Leduc, est-ce que la fraude scientifique, c'est un phénomène récurrent ?
La fraude scientifique, je pense, a toujours existé, puisque il y a fraude un petit peu dans tous les métiers. La bonne question, c'est de savoir si elle augmente maintenant. Mmh. Et il n'est pas facile de répondre à cette question, parce que le nombre de chercheurs augmente énormément, le nombre de publications augmente énormément, donc en proportion, logiquement, le nombre de fraudes doit augmenter aussi.
Jean-Gabriel Ganassia, donc il paraît que Galilée s'est un petit peu arrangé avec la réalité. C'est vrai cette histoire ou pas ?
Oh, il a réalisé ce qu'on appelle des expériences de pensée. Il a dit qu'il a fait tomber du haut de la tour de Pise deux masses de taille inégale pour montrer, contrairement à ce que prévoyait la théorie d'Aristote, elle devait arriver en même temps. Et bon, des épistémologues ont montré qu'il n'avait certainement pas fait cette expérience parce que c'était un beaucoup trop bon physicien et que ça n'aurait pas marché.
Boris Barbour, est-ce que vous êtes un Robin des Bois de la fraude scientifique avec ce site PubPeer dont on va parler avec vous ?
Bonjour. Donc, comme Robin des Bois, je suis britannique, d'origine britannique, mais je pense que l'analogie peut-être s'arrête là. Je suis organisateur d'un site qui permet la discussion scientifique publique de publications scientifiques. Il n'y a pas d'argent transféré.
Oui, mais chez Robin des Bois non plus d'ailleurs. Hein. C'est votre site qui a été à l'origine de la chute du biologiste Olivier Voynet. Et on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs. La résistance aux antibiotiques est-elle en passe de devenir un problème à l'échelle mondiale ? C'est aujourd'hui à la une de la science.
La résistance bactérienne aux antibiotiques est le problème numéro un de santé publique aujourd'hui. Elle fait chaque année des milliers de morts et des millions de malades seulement aux États-Unis. Et cela continuera d'augmenter à moins que nous trouvions des solutions concrètes et coordonnées pour la combattre.
Voilà Barack Obama qui partait en guerre contre la résistance bactérienne devant la presse en mars dernier et à la une de la science. Donc aujourd'hui, une étude détaillée et inédite sur la consommation d'antibiotiques dans le monde avec en toile de fond donc cette résistance aux antibiotiques toujours croissante. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Patrice Courvalin par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité de recherche sur les résistances bactériennes à l'Institut Pasteur. Et puis dans ce studio, notre médecin Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Patrice Courvalin, c'est donc la première fois que ce travail de recensement est mené à l'échelle mondiale. Et la principale information à retenir, c'est que l'utilisation des antibiotiques a augmenté dans le monde de 30% depuis les années 2000. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce chiffre ? C'est une donnée inquiétante pour vous ?
Il faut l'interpréter de façon très péjorative parce que c'est une augmentation d'un tiers, donc c'est extrêmement important. Et il y a de très nombreuses études qui ont montré qu'il y avait une corrélation très étroite entre l'utilisation des antibiotiques et la dissémination de la résistance. Donc on peut anticiper une dissémination accrue de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries pathogènes pour l'homme.
Dominique Dupagne, on peut imaginer qu'une estimation comme ça à l'échelle mondiale d'utilisation d'antibiotiques, c'est pas facile. Cette étude, selon vous, est fiable ?
Oui, enfin, comme toujours, les chiffres peuvent être mis en cause localement. Il y a des chiffres sur l'Inde qui, je trouve, un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, il y a un très beau travail qui est vraiment très utile puisqu'il permet de voir des choses très intéressantes. Habituellement, on parle des antibiotiques un peu en l'air. Genre, c'est mal, il faut pas trop prescrire. Les médecins sont vilains, ils donnent trop d'antibiotiques. Bon, on sait pas trop quoi faire de ça. Alors que là, on a une cartographie pays par pays, microbe par microbe, antibiotique par antibiotique. Mmh. Et qui permet de voir, en fait, que ce qui fait consommer des antibiotiques, c'est d'être riche. Quand on est riche, on consomme des antibiotiques parce qu'on a les moyens de le faire. Et que c'est dans les pays pays où on consomme des antibiotiques, et surtout des antibiotiques de dernier recours, des antibiotiques puissants, qu'on a le plus de résistance, qui est complètement logique aussi.
Alors justement, Patrice Corvalin, le travail, l'idée de ce travail, c'était de cartographier précisément la résistance aux antibiotiques, qui longtemps était un problème de riche, hein, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Oui, mais si vous voulez, vous avez une très forte augmentation de la résistance dans les pays en développement, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est là où vous avez le plus d'infections. Du fait de mauvaises conditions d'hygiène. Mmh. Également, les antibiotiques sont en vente libre, donc c'est sans surveillance, avec tous les excès, l'excès d'utilisation, la mauvaise utilisation des antibiotiques. Et puis, vous avez un facteur très important qui est l'utilisation des antibiotiques comme promoteurs de croissance chez les animaux d'élevage, qui a été banni en Europe. Mais par exemple, en Chine, vous avez l'utilisation en 2010 de 15 000 tonnes d'antibiotiques pour promouvoir la croissance des animaux. Donc une pression de sélection énorme.
Dominique Dupagne, quand on regarde l'évolution géographique et temporelle des résistances, on a une petite idée, on pense au réchauffement climatique. Vous êtes d'accord avec cette analogie?
Alors, c'est un peu peut-être la conclusion qu'on aura tout à l'heure, c'est que faire? Et finalement, on est tous d'accord pour dire que c'est un problème, mais on n'est pas capable de se coordonner pour le faire cesser. Mais je voudrais revenir quand même sur les antibiotiques eux-mêmes et les pays. On a deux sortes d'antibiotiques, si on fait vraiment un distinguo. Les antibiotiques courants, ceux qu'on utilise pour traiter l'otite des enfants, les bronchites, les antibiotiques d'usage courant. Alors ceux-là, en effet, se diffusent dans tous les pays au fur et à mesure qu'ils ont les moyens de se les payer. Il y a une augmentation de l'utilité. Mais certes, c'est pas idéal, mais c'est pas ça qui est un énorme problème. Ce qui est un énorme problème actuellement, c'est des germes qui sont résistants à tous les antibiotiques connus, y compris des produits très très chers, utilisés uniquement à l'hôpital, et que les pays en voie de développement, d'ailleurs, n'ont pas les moyens de se payer. Et là, c'est pas vraiment des prescriptions d'antibiotiques un peu trop légères en ville pour tout et n'importe quoi. C'est aussi, par exemple, la cancérologie qui fait qu'on met maintenant des malades en aplasie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de défense immunitaire pour avoir des chimios très puissantes. Et ces gens-là, on est forcé de les protéger, donc on leur fait à l'hôpital des cocktails d'antibiotiques extrêmement puissants. Et c'est aussi à force d'utiliser ces cocktails d'antibiotiques très puissants en préventif qu'on finit par avoir des résistances. Mais ce sont deux phénomènes qui sont complètement différents pour moi.
Patrice Corvalin, justement, quelles seraient les conséquences sanitaires si on laissait la situation empirer à l'échelle mondiale, ce qui est en train de se passer finalement?
C'est-à-dire que ce qui fait que la résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique majeur, c'est que non seulement ça va être un problème pour le traitement des maladies infectieuses, en les rendant plus difficiles à traiter, plus onéreuses, mais ça entraîne une véritable abolition des progrès de la médecine des dernières dizaines d'années. Mmh. Notamment des personnes immunodéprimées. Ça veut dire que lorsque vous faites des transplantations d'organes, vous avez un cancer, vous tentez une leucémie, vous faites de la chirurgie lourde, les malades sont immunodéprimés, ils s'infectent facilement. Et si ils s'infectent avec des bactéries résistantes à tout, vous aurez dû avoir fait des progrès dans toutes ces techniques, les malades vont mourir d'infection. Donc c'est extrêmement grave à ce niveau-là. Ça dépasse largement le problème des maladies infectieuses.
Dans les pays riches, le problème est en passe d'être résolu ou il commence tout seulement?
Non, il n'est pas du tout en passe d'être résolu, parce que vous pouvez prendre des mesures locales, par exemple, de bon usage des antibiotiques, mais avec la circulation des biens, avec la circulation des personnes, de touristes par exemple, les gens qui reviennent de l'Inde ou d'Asie avec des bactéries multirésistantes, avec les déplacements de population dans les conflits, vous avez une dissémination, quoi que vous fassiez dans votre pays. Un programme de prévention de la dissémination de la résistance, il ne peut pas être national, il ne peut pas être continental, il doit être global à cause de la circulation des bactéries. Les bactéries ne connaissent pas les frontières.
Alors justement, comment faire pour que les pays en voie de développement ne reproduisent pas, Dominique Dupal, les mêmes erreurs que les pays riches?
On parlait encore une fois du réchauffement climatique. On a du mal à empêcher les Chinois de brûler le charbon qu'on a brûlé avant eux. Est-ce qu'on va pouvoir les empêcher d'utiliser les antibiotiques que nous, on utilise massivement depuis longtemps? Ça suppose des accords internationaux. Alors, est-ce qu'il faut en arriver à partir du principe que c'est pas possible, comme le disent d'ailleurs certains climatologues, et qu'il faut s'adapter au réchauffement plutôt que d'essayer de le contrer? Est-ce que pour les antibiotiques, on va changer nos habitudes? On a connu ça, par exemple, pour la sexualité. y a une période, au début des antibiotiques, d'un seul coup, la sexualité était libérée parce qu'on savait traiter les maladies vénériennes et donc on n'avait pas de protection jusqu'à ce que le sida arrive. Cette fois-ci, c'était pas une résistance, c'était un nouvel agent infectieux. Mais donc, on a changé nos habitudes sexuelles en fonction de l'apparition de nouveaux risques infectieux. Ben là, c'est pareil. Et en effet, si on finit par avoir des germes qu'on ne sait pas éradiquer, on va peut-être être forcé d'amputer plus souvent des membres qui sont infectés. On va peut-être être forcé d'avoir des interventions qui vont être un peu plus à risque. Peut-être qu'on va être forcé aussi de faire des chimiothérapies moins puissantes pour ne pas prendre le risque de mettre les gens en aplasie et de ne pas pouvoir les soigner. Il y aura des conséquences, mais pour le public qui nous écoute et qui doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est clairement pas en ne soignant pas son enfant qui a une otite que ça va changer quelque chose. Il n'est pas là le problème. Ouais. Hein. C'est plutôt dans la façon dont on travaille, et d'ailleurs surtout à l'hôpital, pour les résistances aux germes les plus dangereux.
Allez, une dernière question, un message d'auditeur, Axel.
Oui, Charlotte qui se demande quelle est la part de responsabilité de l'élevage dans cette histoire.
Patrice Courvalin, votre réponse.
Il est très important lorsque vous considérez les volumes utilisés. Par exemple, au Danemark, il y a quelques années, avant l'abolition des antibiotiques comme supplément dans l'alimentation animale, le pays consommait 15 kg de vancomycine, un antibiotique de dernier recours. Mm-hmm. Et à quelques centaines de mètres des hôpitaux où on prenait beaucoup de précautions, il y avait des élevages qui utilisaient 15 tonnes du même antibiotique, vous voyez. Donc c'est absolument fondamental. Alors le problème de la résistance, c'est que ça n'est pas multifactoriel et il faudra des solutions multiples. Vaccination, la médecine préventive, c'est quand même la meilleure des médecines. Donc les vaccinations, par exemple, on a obtenu des très bons résultats avec le pneumocoque. L'hygiène de l'eau et des mains, un usage raisonné des antibiotiques et puis des réseaux de surveillance qui soient, comme on l'a dit, internationaux, mais aussi nationaux, parce que c'est important de connaître vos bactéries pour faire ce qu'on appelle l'antidothérapie probabiliste. Quand quelqu'un est malade, on soupçonne une bactérie. Si on la connaît, on connaît sa résistance antibiotique, on a un traitement adapté.
Donc c'est notre carte d'identité bactérienne.
Il faudra également développer des tests de diagnostic rapide, savoir si est-ce que la maladie est une bactérie, on peut donner des antibiotiques ou un virus ou c'est inefficace. Donc améliorer les traitements.
Merci pour votre éclairage, Patrice Courvalin et Dominique Dupagne. Un petit mot juste, Axel, pour signaler que demain, un rapport sera rendu à la ministre de la Santé sur cette question, justement.
Oui, un rapport très attendu dont on aura peut-être des choses à vous dire dans les prochains jours.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique de ce mardi. Une salade sur 10 contiendrait des pesticides interdits. C'est donc le résultat d'analyses menées par l'association environnementale Génération Future. Dans un communiqué paru aujourd'hui, l'ONG montre que 16% des 31 salades testées contenaient des traces de produits chimiques interdits en France. 6% des salades testées contiendraient même du DDT, produit cancérigène, interdit depuis 1971 et en partie responsable du déclin des abeilles. L'allaitement serait trop court en France, selon une étude publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'INVS. Le temps d'allaitement s'est allongé depuis les années 90, atteint aujourd'hui les 4 mois, mais c'est toujours trop court, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande un allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois et un allaitement partiel jusqu'à 2 ans. L'étude a été menée pendant un an sur 18 000 bébés nés en France en 2011. Et puis une tombe pré-romaine vient d'être découverte à Pompéi. La sépulture repérée par des archéologues français dévoile des vases, des amphores dans un très bon état de conservation. La tombe mise au jour près de la porte d'Herculanum daterait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Vous pouvez voir les photos de cette découverte sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis justement, un grand merci puisque notre page vient de passer ce matin le cap des 10 000 fans. Un cap qui sera peut-être franchi également sur Twitter dans les jours qui viennent puisque le compte de l'émission affiche aujourd'hui 9 639 abonnés. Merci à tous pour votre fidélité. La fraude scientifique dans un instant. Hold on to me. They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. Freedom.
let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. With the baby first piece. From heat, the electric one, does the shock you see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Freedom! 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 Freedom, 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 freedom.
Et c'est Pharrell Williams.
La tête carrée sur France Inter.
Falsification, manipulation, la fraude scientifique, dossier donc de la tête au carré cet après-midi. Mes invités pour en parler. Michèle Leduc, vous êtes physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS et présidente depuis 4 ans du COMETS, le comité d'éthique du CNRS. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes mathématicien, philosophe, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et membre du COMETS. Et puis Boris Barbour, vous êtes biologiste et neurologue, chercheur au CNRS et membre fondateur de PubPeer, un site de commentaires anonymes sur, entre autres, sur les articles scientifiques. Les questions arrivent déjà nombreuses sur le site de l'émission franceinter.fr. Michèle Leduc, d'abord, à quel moment le CNRS est-il doté d'un comité d'éthique ?
Le comité d'éthique date d'une vingtaine d'années. Hein, mmh. Donc, je suis la cinquième présidente.
Ouais.
Et donc, ça fait longtemps que le CNRS se préoccupe de questions d'éthique qui ne recouvrent pas que les questions de déontologie et de pratique du métier, qui réfléchit un petit peu à la science et la société, au bien-être public. Et
bon, vous avez souvent à discuter de la bonne conduite scientifique, justement, ou pas?
Alors, la bonne conduite, c'est un sujet qui est sorti assez récemment et qui, bien sûr, n'est pas nouveau, mais qui nous a préoccupé beaucoup parce que on se rend compte qu'il y a certes des fraudes. Alors, la fraude, vous savez, la définition, c'est la falsification, la fabrication ou le plagiat, ça c'est la définition anglo-saxonne. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que ce genre de fraude est quand même très rare. Il faudrait quand même un peu rassurer le public qui nous écoute. Les chercheurs, ce sont pas tous des fraudeurs en puissance. Mais il y a des petites mauvaises conduites qui sont inquiétantes et on pourra revenir peut-être dessus.
Vous êtes d'accord avec ça, Boris Barbour? Est-ce que c'est si rare que ça, la fraude scientifique? C'est pas vraiment le sentiment qu'on a quand on étudie quand même un peu le dossier, moi je trouve.
C'est très difficile de mesurer. Et en fait, je pense que la remarque que j'aimerais faire, c'est juste d'inscrire là, de noter que la fraude, c'est un extrême d'un spectre de fiabilité de recherche. Mmh. Et on peut, ce qui compte pour le chercheur qui tente de se baser sur les recherches publiées, c'est s'il peut se fier à la publication. Et la fraude serait une raison.
C'est ça.
On voit pas, mais plein d'autres erreurs. De conception, de manipulation peuvent intervenir aussi.
Oui, on va parler, Jean-Gabriel Ganassia, d'erreur ou de falsification, donc de manipulation volontaire et puis d'erreur aussi involontaire.
Oui, c'est ça.
Ils sont là au cœur des publications.
Hein. Ce qui est de la fraude, étymologiquement, c'est, en latin, c'est lié à la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de tromper. Et puis l'erreur. Le scientifique est toujours soumis à une. Je veux dire, c'est ce qu'il essaye de faire. Ce sont des théories qui seront plus proches de la vérité, mais il est toujours susceptible de se tromper.
C'est ça. Ces erreurs, justement, elles sont nombreuses, elles ou pas? Alors, en dehors, pour le coup, des manipulations volontaires.
Les erreurs scientifiques sont nombreuses.
Parce que c'est quand même très gênant.
La démarche scientifique, c'est une démarche qui procède
par erreur. Hein, oui. On n'a jamais une vérité absolue. On se rapproche de la vérité progressivement et on émet des hypothèses qui demandent à être falsifiées justement pour qu'elles soient scientifiques. Il faut qu'il y ait une épreuve de validation. Mmh. Et bon, dans certains cas, bien sûr, certaines hypothèses sont fausses. Dans la fraude, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a volontairement des expériences qui sont tronquées, des données qui sont réutilisées, ou alors il y a quelque chose qui est une tromperie, mais qui n'est pas d'ordre expérimental, c'est-à-dire qu'on s'approprie le résultat de quelqu'un d'autre, comme dans le Piaget, par exemple, on s'approprie des textes ou autre chose.
Michel Leduc.
Oui, donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un site qui n'est pas Papyr, mais un autre site qui s'appelle Retraction Watch, qui dénonce des publications qui sont retirées, hein, qui ne sont considérées comme pas valables. Et c'est le nombre de publications qui paraissent sur Retraction Watch, c'est un site américain, enfin international, ne sont pas que des rétractions pour les fraudes. Il y a aussi des rétractions pour erreur. Ou pour plagiat.
Vous avez la proportion à peu près pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu.
Oui, par exemple, voilà, on a vu un article là, qui est paru sur la fraude dans le domaine biomédical qui montrait que les fraudes sont pour 40% et les erreurs pour 22%.
Ah, quand même,
le plagiat pour 10%.
Ah ben c'est pas rien alors 40%
non,
de fraude quand même, hein, vous voyez, finalement
c'est
quand
c'est pas rien. Mais enfin le nombre aussi d'articles rétractés est quand même très faible par rapport au nombre d'articles publiés, il faut pas non plus exagérer.
Jean-Paul nous envoie ce message. Est-ce que la fraude scientifique n'est pas inhérente à la recherche scientifique? Est-ce que la tricherie même relative n'est pas nécessaire pour faire avancer une théorie, par exemple avec Mendel et sa théorie de l'hérédité? Alors, qui veut répondre à
la tricherie? Non, je veux dire que l'erreur, effectivement, soit présente, c'est normal. Mais en revanche, les scientifiques sont de bonne foi. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que la fraude est si grave. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on est tous réunis ici. Parce que on pense d'abord que ça a des conséquences économiques, des conséquences sociales sur les résultats de la recherche, mais aussi des conséquences épistémologiques. C'est-à-dire que le chercheur est d'abord à la quête de la vérité. Et tromper volontairement, c'est à mon sens antinomique avec l'idée même de recherche scientifique.
Alors, Boris Barber, Papyr, présentez-nous quand même ce site qui a été lancé en 2013, c'est ça?
Alors, c'est
dans l'idée de créer quoi, une communauté de savants avant tout
Alors, l'idée de base, c'était simplement le constat de, je pense, tout chercheur de s'énerver un peu devant des publications où il voit un faille et il n'a pas vraiment manière de s'exprimer ou de partager cette information.
Oui.
Et donc, le but de site, c'est assez simple. Si vous connaissez un papier où vous voulez discuter de quelque chose, vous pouvez déposer un commentaire attaché à ce papier sur le site.
Donc, dès qu'il y a une imperfection, hop, on peut aller sur le papier pour se manifester.
Tout à fait. Alors, ça peut être une information positive aussi ou neutre. Souvent, c'est un peu critique, voire très critique.
Ouais. Mais au fond, ça stimule aussi le chercheur. C'est-à-dire que c'est aussi la vertu de ce site, c'est de permettre d'améliorer, de traquer les erreurs pour...
Alors, le contexte, c'est que la recherche d'aujourd'hui se base sur la recherche d'hier. Et si un chercheur tente de continuer un projet, mais le résultat sur lequel il se base n'est pas fiable, c'est de l'argent gaspillé, l'argent du contribuable, très souvent, et ça peut avoir des conséquences relativement graves pour les chercheurs qui gaspillent leur temps aussi. Ça peut être une carrière manquée assez rapidement.
Ouais.
Et ce n'est pas juste un jeu de chercheurs aussi, parce que l'action publique, les investissements, les recommandations de traitement se basent sur la recherche publiée. Mmh. Et donc pour des recommandations de traitement médical, si on se trompe, on peut dire que les vies sont en danger, en fait.
Oui. Vous dites que c'est un peu le service après-vente de la recherche, au fond, un tel site.
Donc, notre rêve, c'est que la recherche publiée soit fiable, claire, honnête, vraie, sans erreur prévisible. Et si ça n'est pas le cas, on encourage les auteurs à faire leur service après-vente, tout à fait.
Alors, donc, on parlait de cet anonymat tout à l'heure, mais pas seulement, justement, au sein de ce site Papyr. Et apparemment, au sein même du CNRS, Michel Leduc, le site n'a pas toujours eu bonne presse. Quelles étaient les principales critiques à l'encontre de Papyr, justement? C'était le côté anonyme qui gênait précisément?
Oui, alors, vous savez, l'anonymat n'est pas très bien vu en France.
En France en particulier,
dans la culture française. Peut-être on a des souvenirs de la dernière guerre, je ne sais pas. Mais... Et par contre, dans la culture américaine, ce qui est mal vu, c'est de mentir, mais c'est pas de dénoncer quelque chose, au contraire. Donc, en France, le comité d'éthique a été un petit peu gêné devant ce site à cause de son anonymat, mais après réflexion, on pense que malgré tout, s'il n'y avait pas l'anonymat, beaucoup de choses ne seraient pas révélées, parce qu'il y a, c'est quand même très intimidant pour quelqu'un dans une équipe qui voit quelque chose qui ressemble à une fraude, de le dénoncer de peur d'en encourir les conséquences, surtout les jeunes par rapport à leur chef de service.
Ouais. Boris Barber, c'est vraiment une question de culture, ça, cette question de l'anonymat ou pas ?
Culture, je ne sais pas, mais c'est clairement une question, une reproche qui nous est souvent faite, tout naturellement. Alors, il y a plusieurs garde-fous. Donc, déjà, c'est un site scientifique pour des chercheurs. Donc, chaque commentaire doit avoir son contenu scientifique, d'être basé sur les faits. On peut pas juste dire votre étude est nulle, parce que la prochaine question, c'est pourquoi mon étude est nulle. Et les auteurs ont toujours droit de réponse. On l'encourage. Donc, s'il y a quelque chose qui est pas clair, ils peuvent expliquer. Ils sont encouragés de montrer les données d'origine.
Oui.
Qu'ils ont rapporté dans la publication, en principe, et ça couperait court à la plupart des discussions. On peut signaler des abus, bien sûr.
Ouais, Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, je crois que ce qui est extrêmement intéressant avec des sites comme PubPeer, c'est que on a affaire à une discussion publique qui essaye de s'instaurer dans la communauté des savants. C'est une communauté particulière, hein, où on n'est pas un tel ou un tel, mais on parle de façon neutre, c'est-à-dire que c'est pas la position d'autorité qui vous permet de parler, c'est la force des arguments. Et je crois que c'est ça qu'essaye de mettre en place PubPeer.
Est-ce que ça modifie les pratiques déjà depuis 2 ans qu'existe le site ? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les chercheurs font attention à ce qu'ils font un peu plus ?
C'est très difficile de savoir. Peut-être un peu.
C'est difficile à estimer là aussi.
Oui, hein. Oui, tout à fait.
Un tweet de Christophe, c'est Jean, nous dit-il. Fraude-t-il pour frauder, se mettre en avant, produire du résultat ou pour pouvoir continuer tout simplement à exister, pour pouvoir poursuivre leurs recherches face aux pressions financières, médiatiques ou même publiques ?
Ouais, Michel Leduc. Pense quand même, on a analysé au comité d'éthique du CNRS que la pression sur les chercheurs et les enseignants-chercheurs, hein, puisque c'est le même milieu, augmente quand même depuis les dernières années. Hein. Tout le monde parle du publish, périche ou périche. La pression à la publication est quand même très forte et elle joue pour l'évaluation des chercheurs qui sont faites sur leur liste de publication, sur les revues dans lesquelles ils publient, les revues qui doivent être à fort facteur d'impact. Et tout ça est quand même maintenant fortement critiqué. Hein. C'est l'évaluation et aussi les promotions et l'entrée dans le métier, hein, les embauches, dépendent de beaucoup trop du système de publication actuel qui devient un peu fou. Voilà, il faut publier beaucoup. Alors évidemment, ça pousse les chercheurs, et en particulier les jeunes chercheurs, poussés dans leur équipe par leur chef d'équipe, à publier trop vite, souvent, sans avoir fait toutes les vérifications, sans avoir pris le temps de tout vérifier, publier en coupant un petit morceau pour avoir plus de publications, mal citer ses sources aussi. Enfin, il y a eu un grand nombre d'inconduites qui sont reconnues, qui sont pas vraiment des fraudes, mais qui sont des pratiques dont le nombre augmente et qui sont dommageables pour la recherche.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite de notre discussion et beaucoup de messages, des commentaires pour vous sur franceinter.fr. Je vous les soumets dans quelques minutes.
Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau, de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus. Et c'est en amassant que tu me plus le plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus, j'ai pu savoir ton goût. Le goût
mot insignifiant, l'une femme le plus dont de toute façon je la verrai le cul. Voici venir mon heure et je n'attends me point de servir de surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. S'il arrivait un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin, en guise de merci j'offrai en retour un massage des seins, mon dernier amour.
Maracas à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
L'inconduite scientifique, la fraude, donc, dans le dossier cet après-midi avec Michel Leduc, Jean-Gabriel Ganassia et Boris Barbour. Alors, beaucoup de messages. Jean nous dit ceci. Il y a 2 ans, The Economist avait publié une enquête dévastatrice sur la non-fiabilité de la publication. Toute la gamme des erreurs et des fraudes y était passée en revue. Et ça n'est pas triste. La publication en peer review n'échappe en aucun cas à ces problèmes. Il est, à mon avis, impossible, dit Jean, de faire confiance de prime abord aux résultats scientifiques publiés. Boris Barbour. Alors, faut vraiment être dans cet état d'esprit-là ou pas? C'est-à-dire tout ce qu'on lit.
C'était une étude, j'ai du mal à prononcer son nom, Ioannidis, qui a fait en quelque sorte une statistique des statistiques d'articles en sciences biomédicales, je pense, les publications, et on arrivait à la conclusion qu'une majorité ne serait pas reproductible.
C'est ça.
Qui est assez inévitable vu l'analyse. Donc, et ça rejoint la notion d'une erreur prévisible. La plupart d'articles publiés ont des statistiques trop faibles, sont pas très fiables.
Il y a une étude très récente sur les sciences humaines aussi, dont on a parlé dans l'émission, Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, je pense que c'est très vrai dans des domaines comme la biologie et la médecine, où on a affaire à une matière expérimentale, c'est extrêmement difficile, parce que le nombre de facteurs qui interviennent dans les expériences est très grand.
Dans les sciences humaines, il y a aussi quand même une grande subjectivité.
Dans les sciences
aussi,
humaines, il y a une subjectivité, mais il y a quand même d'autres disciplines où les expériences sont quand même reproduites énormément. Ouais. Bon, puis en mathématiques, ce sont des théorèmes. En informatique,
il y a à la fois
un aspect mathématique et puis un aspect expérimental avec des données. Et puis on essaye aujourd'hui de plus en plus de mettre les données à disposition de tous les autres chercheurs pour qu'ils puissent refaire un certain nombre d'expériences. Donc il y a quand même une prise en charge de ces questions par la communauté scientifique.
Michel Leduc.
Oui, je voudrais dire quand même que dans des domaines comme la physique, on a une relative confiance dans le système du peer review. Vous savez, on envoie son article et puis 2 rapporteurs anonymes le critiquent, on le perfectionne.
Ouais. On peut le traduire d'ailleurs peer review.
Peer review, c'est les rapports par les pairs, les collègues. Alors, c'est un système qui est très très loin d'être parfait, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est comme la démocratie, c'est le plus mauvais, mais à l'exception des autres. Quoi. Ouais. Et donc, mais on entend quand même qu'il y a des alternatives qui sont justement les sites comme Peer, où on peut discuter après la publication. Donc ça, c'est quand même, les reviewers, les rapporteurs peuvent discuter entre eux, ça c'est très positif. Néanmoins, je ne vois pas comment on peut se passer de la critique par les pairs pour un article.
Un petit message taquin de Dominique sur Twitter qui nous demande ceci. Vos invités peuvent-ils nous parler de leur propre fraude de jeunesse, bien sûr, met-il en parenthèse.
Je peux facilement.
Alors, Michel Leduc,
ce ne sont pas des fraudes.
Passer à l'aveu.
Ce sont des mauvais, des comportements inadéquats. C'est-à-dire, un qui est très grave, c'est de mal archiver tous les résultats et tout ce qui va avec. Ça en est un. L'autre, c'est de couper ses publications en morceaux pour faire d'abord une lettre, ensuite un grand article pour que les étudiants aient plus d'articles. Voilà,
bon,
ça je reconnais.
Très bien.
Je reconnais
ça. Donc ça, c'est de votre côté, Jean-Gabriel Ganassia, mathématicien, confessez-vous.
Alors, mathématicien et informaticien, bon, à la fois, effectivement, saucissonner la recherche, hein, c'est une pratique courante, mais bon, en même temps, bon, il faut bien arriver à faire des dossiers pour que les gens puissent avoir des postes. Et puis, ce qui m'est arrivé, c'est d'être impliqué un peu par devers moi dans des affaires de plagiat où des étudiants à moi reprenaient le texte de quelqu'un d'autre dans un article qui publiait. Et
d'accord.
Donc là, j'étais quand même très, très ennuyé.
D'accord. Bon.
Et biologiste est certainement donné dans l'usage de statistiques trop faibles dans le passé.
Donc vous reconnaissez tous, au fond, hein?
Oui.
Avoir pas fraudé, c'est pas
oui,
c'est
sur,
pas le
sur
mot
le
qui
plagiat, c'est pas moi qui avais plagié, c'est un de mes étudiants qui était en thèse avec moi, qui avait été attaqué parce qu'il avait eu un comportement non éthique. Quand j'ai enquêté, on m'a dit qu'il avait plagié. Il ne savait même pas qu'il avait plagié parce qu'il avait repris le rapport de quelqu'un qu'il avait encadré, qui lui avait dit, tu peux réutiliser mon rapport parce qu'on a travaillé ensemble. Le problème, c'est que la personne qu'il avait encadré avait elle-même copié une partie de son texte sur un article d'une personne reconnue dans le domaine.
Boris Barber, c'est votre site, donc, Pupir, qui a lancé le premier de graves accusations contre le biologiste Olivier Vouanet, qui a été sanctionné, donc, on le disait, en juillet dernier par le CNRS. Exclusion de 2 ans. Vous étiez sur ces traces depuis un petit moment. Comment ça s'est passé exactement?
Alors, il faut d'abord être très clair. Le site reçoit des commentaires.
Vous êtes le diffuseur.
Voilà, tout à fait. On n'a pas pris de position, d'action.
Vous n'étiez pas en chasse contre lui spécialement.
Non. Il y avait des affaires, en fait, plus grosses dans le monde, en France, en Voyevoinais. Mais le site prend pas d'action. Donc, néanmoins, personnellement, je lis la plupart des commentaires qui arrivent juste pour vérifier que ça a l'air à peu près sensé. Et effectivement, je les ai vus passer. Oui.
Ouais. On va entendre sa voix. C'était en 2009, à l'occasion de la remise d'un prix où il expliquait l'objet de ses travaux.
On a, dans nos programmes de recherche, de grands programmes de séquençage, en fait, de ces petits RNA qui régulent l'expression du génome d'Arabidopsis ou d'autres organismes, puisqu'on est aussi intéressé par des cultures de cellules humaines. Et en fait, l'idée est d'établir des répertoires exhaustifs de ces petits RNA en utilisant des techniques récentes de séquençage profond basées sur le pyroséquençage. Or, ces techniques coûtent très très cher, donc évidemment, le prix de l'Institut sera largement utilisé à cette fin.
Voilà le biologiste Olivier Vouanet, un grand chercheur, Michel Leduc, il faut quand même le préciser.
Oui, et ses recherches globalement restent valables. Mm-hmm. C'est plutôt les méthodes qu'il a employées pour aller plus vite.
Qu'est-ce qu'on lui a reproché, justifiant 2 ans d'exclusion?
Si j'ai bien compris, on n'a pas vu le rapport puisqu'il n'est pas possible qu'il soit publié, mais on a quand même tous entendu parler du cas. En fait, le plus grave dans la fraude, c'est la fabrication. Et Olivier Vouanet n'a pas fabriqué des résultats qui n'existaient pas. Simplement, il est un peu falsifié, et d'après ce qu'on a compris, il a falsifié des images, comme je crois que c'est assez facile de faire dans les sciences biologiques, et mis des images qui ne correspondaient pas au texte, ou mettre plusieurs fois la même image pour prouver des choses différentes. Voilà, si j'ai bien compris, c'est de ça qu'il s'agit, et donc c'est tout à fait condamnable, et il faut vraiment que tous les chercheurs comprennent qu'ils ne doivent pas faire ça, parce que ça enlève la confiance dans la méthode employée.
Oui, Boris Barber, 2 ans d'exclusion, c'est lourd quand même.
Ah oui.
Alors, c'est rare. Hein.
Je ne suis pas du tout juge ou expert dans ce type d'investigation. En fait, il y a un commentaire un peu plus général que j'aimerais faire qui s'applique dans ce cas, mais dans d'autres. C'est que l'utilisateur des recherches, ce sont d'autres chercheurs. Mm-hmm. Et ce dont ils ont besoin, c'est de voir les données d'origine pour pouvoir faire leur propre idée. Donc, dans ce cas et dans bien d'autres, on ne voit jamais les données d'origine.
Ouais.
Donc, je m'inscris dans un mouvement de partage de données. Ouais. C'est très important pour l'avenir.
Olivier Vouanet, suspendu donc, et qui sera en outre accompagnée d'un spécialiste externe afin de mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer son comportement au travail.
Ça, c'est à l'ETH à Zurich, parce que ce chercheur est maintenant en poste en Suisse, et ça, c'est la sanction, si je puis dire, que les Suisses ont prévu pour son séjour en Suisse. La sanction du CNRS est effectivement extrêmement sévère.
Sur l'exclusion. Hein,
sur l'exclusion de 2 ans après son retour en France. Elle est sévère, mais je crois que le CNRS a tenu à montrer que il ne transigeait pas sur les questions de fraude quand elles sont révélées.
Ça vous paraît possible de réintégrer une institution comme le CNRS après 2 ans d'exclusion ?
Ça, je ne peux pas me prononcer pour lui. Je pense que sa réputation en a pris quand même un coup. Mais peut-être sera-t-il... Voyez-vous, c'est une sanction française, mais ce chercheur travaillait beaucoup avec des crédits européens et il n'est pas certain que d'autres pays d'Europe ne continueront pas à l'employer. Ouais. On ne lui demandera certainement pas de rembourser l'argent qu'il a dépensé de façon frauduleuse.
Alice demande que penser de la publication espacée des résultats pour augmenter son nombre de publications. Est-ce contraire à la déontologie du chercheur ? Qui veut répondre ? Jean-Gabriel Ganassia ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une publication espacée des résultats. Non, je crois que ce qui se produit, c'est plutôt que la même recherche donne lieu à différentes publications sur différents aspects de la recherche, parce que ce sont des manipulations qu'on met extrêmement longtemps à mettre en place, et on va prendre différents éclairages. Mais en revanche, qu'on retienne les résultats, je n'ai pas vu ça. Au contraire, il y a un grand mouvement aujourd'hui de partage de données, où on essaye de mettre une partie des données produites à disposition. Et la question, bien sûr, c'est de savoir comment faire reconnaître ce travail de production de données, puisque ce n'est pas vraiment là-dessus que l'on publie. On publie sur des hypothèses scientifiques.
Oui. Est-ce que ce cas, justement, d'Olivier Voynet n'est pas emblématique, tout simplement, des limites du modèle de production aujourd'hui, Boris Barber, avec cette compétition, on en parlait autour des publications
Peut-être
est-ce qu'il est urgent de passer à autre chose aujourd'hui, ou est-ce qu'on est encore dans l'impossibilité de le faire ?
Alors, les chercheurs sont poussés à publier des articles, et bien sûr les éditeurs sont payés quand ils publient des articles. Donc on a un petit peu perdu de vue l'idée de ce qui est dans l'article, c'est ce qui est le plus important. Et notre espoir, c'est que le site focalise un peu les esprits sur le contenu des articles.
Ouais. Voilà. Mais il faut remodeler les choses, très sérieusement ?
Là, vous parlez de la révolution. Je suis en faveur de la pratique dans la physique des dépôts de preprint, des jets d'articles avant une publication dite définitive dans les journaux. On peut évaluer avec un site comme PubPeer ou autre. Je ne vois pas la nécessité des journaux avec leurs bénéfices faramineux, mais ça mettrait longtemps pour changer, peut-être.
Michel Leduc.
Oui, le comité d'éthique du CNRS a aussi beaucoup insisté sur l'importance de révéler rapidement les résultats des travaux qui sont faits sur les crédits publics et très favorable à la publication sur des archives ouvertes. Le CNRS a un site d'archives ouvertes qui s'appelle HAL, et donc qui est un petit peu comme PubPeer, mais de façon différente. Et on insiste beaucoup, et d'ailleurs HAL est en transformation et monte en puissance, pour que les articles soient publiés peut-être dans leur forme préprint dès qu'ils sont soumis aux éditeurs. Alors, je crois qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu des éditeurs, parce que le rôle des éditeurs n'est pas toujours très bénéfique. Il y a des éditeurs, des très grands éditeurs, de toute façon, se font beaucoup d'argent avec le travail des chercheurs qui font tout. Ils font le travail, ils font le peer review, ils sont éditeurs des journaux, donc les chercheurs sont quand même pas mal exploité par ces éditeurs. Et les éditeurs, vous savez, c'est des milliards de dollars pour les éditeurs comme Elsevier ou autres grands éditeurs. Il y a une sorte de révolte des chercheurs maintenant contre ces éditeurs. Mmh. Et donc, les sites ouverts, les sites comme HAL ou d'autres, sont une bonne façon de détourner les profits des éditeurs.
Toutes les étoiles, l'aurore boréale, je te donne ce que je n'ai pas. comme tu crois que tout est à moi. Toujours, même point du jour. Alors tu t'en fous, mon petit chou. Les anges blonds, les nuits sans fond. Je te donne toutes les saisons. J'ai l'impression d'être un dieu au fond.
En novembre 1912, on avait annoncé la découverte des restes de ce que l'on pensait être l'être humain le plus ancien. La découverte avait eu lieu dans une carrière de cailloux, près du village de Piltdown, dans le Sussex. Elle comprenait plusieurs fragments de crâne humain, un fragment de mâchoire inférieure et une canine. Après avoir été reconstituée, la forme de la tête ressemblait étrangement à celle d'un homme moderne, alors que la mâchoire et les dents étaient plus proches de celles du singe. L'homme de Piltdown avait donc été annoncé comme étant ce fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. La théorie de l'évolution de Charles Darwin allait enfin être prouvée indiscutablement.
Et ça, Jean-Gabriel Ganesia, c'est un grand exemple de fraude, hein, qui a marqué l'histoire.
Oui, ça a marqué l'histoire et ça n'a pu être démontré, démasqué que bien plus tard, hein, dans les années 50.
C'est vrai.
Parce qu'on n'avait pas les techniques. Alors là, c'est vraiment une fabrication. On a mis une mâchoire de singe avec un crâne humain, ce qui inversait d'ailleurs tout un tas d'autres réflexions qui ont été poursuivies par des paléo-anthropologues. Donc c'était effectivement très grave. Induisait vraiment en erreur.
On parlait de Galilée tout à l'heure. Vous me disiez, oh là là, mais bien avant Galilée, il y a eu des exemples de fraude au Port-Montal en l'Antiquité.
Oui, Ptolémée, oui.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Ptolémée?
Oh, il avait, ça je sais pas exactement, mais il avait
fraudé. Ah ben on cite pas des noms comme ça.
Si.
Jean-Gabriel Ganassia, vous
souvenez
oui, qu'est-ce qu'il a fait de son côté?
Non, mais du côté de l'astronomie, on a après, c'est surtout Kepler, Tycho Brahe. Enfin, est-ce que ce sont des fraudes? C'est très intéressant, parce que c'est pour la bonne cause.
C'était plutôt
fait,
des erreurs.
Voilà, oui. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé des erreurs en pensant que c'était des erreurs dites dues à l'atmosphère terrestre. Donc en fait, c'était une correction sur les données, une modification des données, mais qui s'est révélée quand même tout à fait correcte. Donc ce sont des hypothèses de travail qui ont été faites.
Boris Barbour.
En défense de Ptolémée, remarquant quand même que sa théorie était la meilleure pendant 1500 années.
Oui, on peut lui tirer un petit coup de chapeau à ce titre-là.
Quand même, hein,
on est d'accord. Marie nous dit ceci, est-ce qu'il y a des cas inverses, c'est-à-dire des chercheurs qui ont été accusés injustement, justement, mais qui ont été réhabilités par la suite. Alors ça, est-ce que c'est encore une colle qu'on vous pose ou, en cherchant bien, ça a dû exister, mais pour l'instant, on n'est pas de cas particuliers qui vous viennent à l'esprit.
Je n'ai pas d'exemple qui...
Jean-Gabriel Garcia non plus.
Je n'ai pas d'exemple, mais il y a certainement eu des accusations qui se sont révélées fausses. Hein. J'avais des choses en tête, mais je ne les ai plus.
Larry nous dit, le peer review ne risque-t-il pas surtout de servir à se blanchir entre pairs? Boris Barbour, qu'est-ce que vous lui répondez?
Alors, à quoi sert le peer review? Donc, actuellement, c'est la porte d'entrée à tout journal, ce qui est bien ou pas bien selon son point de vue. Néanmoins, c'est entre 2 et 4 personnes qui ont, en principe, bien étudié l'article en question. Mmh. Et je trouve un peu dommage que cette information ne soit pas disponible publiquement. Donc il y a quelques journaux qui publient les revues, qui limitent aussi des écarts par les éditeurs parfois. Mm-hmm. Et c'est une pratique qui pourrait se répandre indépendamment de la fonction d'acceptation ou non dans un journal.
Oui, Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, je crois quand même que il faudrait clarifier les choses. Hein. Il n'y a pas de collusion entre les scientifiques. Au contraire, hein, c'est un domaine où il y a une férocité, très grande. Hein, c'est-à-dire que les gens ne laissent rien passer. Hein, et donc, ce serait vraiment mal connaître les habitudes de la communauté scientifique que de laisser entendre que les gens vont faire passer. Parce que les gens sont tous en compétition, en conflit les uns avec les autres. Alors, ce qu'on peut discuter après, c'est autre chose. C'est le fait que une fois que le peer review a fait son travail de filtrage, qu'ensuite on puisse remettre les articles et qu'on puisse animer le débat scientifique de façon nouvelle en utilisant toutes les nouvelles technologies.
Bah justement, Internet a déjà quand même modifié les pratiques un petit peu,
Internet
on le voit bien.
Permet de
sur
faire
des
ça,
initiatives voilà, maintenant indépendantes.
Ça donne accès à énormément d'informations et ça permet d'échanger. C'est bien sûr ce que fait entre autres Perpier, ce qui est extraordinaire.
Boris Barbour.
Je suis d'accord que les scientifiques devraient se servir plus de l'Internet. Donc, les outils sont en évolution. Hein. C'est le darwinisme. Peut-être Papier va pas survivre, mais je l'espère. Voilà.
Bon, Michel Leduc, on ne veut pas terminer sur cette note.
Non, mais je veux dire qu'il faut quand même... Les réseaux sociaux existent, les nouveaux sites existent. Il faut les utiliser de façon adéquate, mais pas les prendre comme des outils de délation, mais les prendre comme des outils de progrès. Et puis, je voudrais dire un petit mot de plus, c'est qu'il faut aussi utiliser Internet pour faire de la formation aux chercheurs, puisque malgré tout, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs, et des moins jeunes d'ailleurs, qui n'ont jamais entendu parler des questions de fraude ou de mauvaise conduite, simplement de méconduite, et que c'est simplement par ignorance qu'on ne fait pas ça dans la recherche. Ouais. Voilà, ils l'ont vu faire, ils ne savent pas qu'il ne faut pas le faire. Donc, il devrait y avoir, et Internet est un bon vecteur, des moyens de faire, peut-être pas des cours, parce que c'est fastidieux, mais de la sensibilisation et des commentaires d'exemples. Voilà.
Un auditeur qui nous éclaire sur Ptolémée, enfin, avec son ouvrage majeur, l'Almageste, dans lequel il décrit un modèle géocentrique. Il appuyait son modèle sur des mesures astronomiques qu'il prétendait avoir réalisées lui-même sur la côte égyptienne au IIe siècle, des mesures qui en fait avaient été effectuées 300 ans plus tôt par l'astronome grec Hipparque sur l'île de Rhodes, un plagiat pur et simple, mais qui a quand même permis aux astronomes de prédire avec précision la position du Soleil et des planètes pendant 1400 ans.
Formidable, voilà.
Exactement. On a notre réponse pour terminer. Merci beaucoup en tout cas. Pupir, c'est un site .com, hein, tout simplement, Boris Barbour, pour y aller.
Oui, oui, oui.
Il est en lien sur La Tête au Carré, pour ceux qui souhaitent le découvrir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus cet après-midi dans le dossier. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
De quoi on va parler? Je lis les 35 heures.
Oui, voilà. L'histoire des 35 heures. Les 35 heures ont été votées une première fois en 1998, une seconde fois en 2000. Et nous en parlerons avec notre invité Gilles de Robien, ancien député de la Somme, promoteur de la loi qui porte son nom sur l'aménagement du travail. C'était en 96.
Et c'est après les infos.